Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre émission Par ici les sorties. Et c'est de musique dont il sera question aujourd'hui, puisque nous recevons la chanteuse lyrique mezzo-soprano Odile Descol. Bonjour Odile Descol.
Bonjour Bernadette.
Merci beaucoup d'être revenue cette année encore pour nous présenter le concert que vous préparez à la cathédrale de Chartres. Ce sera donc le 28 juin à 21h, et vous avez choisi cette année, qu'avez-vous choisi cette année ?
Eh bien d'abord, merci Bernadette de nous recevoir et de me recevoir aujourd'hui. Ce sera le Requiem de Mozart cette année, Requiem de Mozart, donc le dimanche 28 juin à 21h, à la cathédrale, complètement entrée gratuite. Donc un Requiem composé du chœur Jubilo Canto, dont je suis la directrice, de l'orchestre de la Bastille, dirigé par Émilie Postel-Vinet, orchestre qui est ici à Paris, bien sûr, près de la gare de Lyon, et qui comprend à peu près 45 musiciens, donc une cinquantaine de choristes, 45 musiciens, 4 solistes, voilà, pour le Requiem. Voilà.
Un beau moment de musique. Pourquoi avoir choisi le Requiem ? C'est une musique qu'on connaît déjà probablement. Ce sera donc votre version.
Ça sera la version surtout d'Émilie Postel-Vinet, bien sûr. Et puis, une version assez enlevée. Voilà, c'est toujours... les choristes aiment toujours rechanter cette œuvre qu'ils ont pour la plupart chantée. Mm-hmm. Et c'est un bonheur que de la redécouvrir, oui, bien sûr.
Vous vous êtes déjà vu avec les musiciens, comment ça
se
passe ?
Oui, bien sûr. On a déjà eu un concert de ce Requiem à Paris, à Saint-Germain-l'Auxerrois, le dimanche 31 mai, qui a amené beaucoup de monde, effectivement, et qui a été apprécié, voilà.
J'ai vu que vous étiez diplômée de l'École normale supérieure de Paris. Ça s'était passé comment, cette aventure ?
Oh là, c'était il y a longtemps maintenant. C'était il y a très longtemps, pas tout à fait 30 ans. Et donc, tout simplement, vraiment par hasard, je chantais et quelqu'un est venu me voir lors d'un concert. Je n'étais pas encore soliste, en me disant que j'avais une belle voix. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé.
Et vous avez justement été soliste dans un certain nombre d'œuvres avec de grands chefs d'orchestre.
Oui, c'est juste. J'ai travaillé avec de nombreux chefs d'orchestre, que ce soit effectivement Claudio Abbado, que ce soit Jean-Jacques Werner, qui est alsacien, avec qui j'ai fait de nombreux concerts et de nombreuses œuvres contemporaines. J'ai créé des œuvres contemporaines de Pierre Janssen, qui a été le compositeur des films, de la plupart des films de... Schoenderfer, mm-hmm. Voilà, de Chabrol aussi. Enfin, beaucoup de choses qui m'ont amené à chanter dans des lieux prestigieux, d'autres moins, mais qui étaient très accueillants. Donc voilà, une vie de chanteuse.
Oui. Il est gentil, Claudio Abbado, alors ?
Oh, ben maintenant, il doit l'être encore plus maintenant. Non, c'était... Oui, j'ai chanté la partie mezzo du Requiem de Verdi avec lui, la partie soliste, oui.
Oui, vous aimez bien les Requiem, alors ?
Oui, ça fait partie, je dirais, des œuvres que doivent chanter des solistes, bien sûr, avec l'opéra, bien entendu, aussi.
Avec l'opéra.
Mais, oui, tout à fait.
Vous êtes professeur de chant, notamment oui. À la Schola Cantorum de Paris.
Oui, j'y suis depuis 10 ans.
10 ans. Donc, c'est-à-dire qu'après avoir reçu cet enseignement, vous le redonnez.
Bien sûr, ça fait partie du travail d'un artiste que de transmettre ce qui nous a fait vivre et ce qui nous a permis de vivre et d'avoir cette passion qui est devenue une passion raisonnée et un métier. Donc c'est du devoir d'un artiste que de redonner. Quand on a eu un don, il faut savoir le redonner, bien sûr, bien sûr.
Et vous reconnaissez tout de suite le don chez d'autres jeunes filles ou jeunes garçons qui viennent
vous
voir ?
Le don peut être de différentes sortes. Vous pouvez avoir des personnes qui ont une voix au départ, mais un peu comme si vous aviez, par exemple, un très beau piano chez vous, du genre Steinway. Vous pouvez avoir une très belle voix, ne pas savoir en jouer. Mmh. Donc, il faut apprendre toute la technique. Et puis, vous avez des voix qui sont moins reconnaissables et qui apprennent la technique et qui deviennent de très, très bons instruments. Donc, il y a tout pour faire un monde.
Et il faut savoir, dans ces cas-là, être modeste et bien faire les choses.
Voilà.
Qu'on peut faire.
Tout à fait, on peut faire. Et dans ces cas-là, on peut envisager d'entrer dans un chœur professionnel. Ça, c'est très recherché. Des gens qui savent déchiffrer à vue, comme on dit, c'est-à-dire lire la musique directement. Des personnes qui peuvent s'intégrer dans un groupe, parce qu'il ne faut pas avoir non plus une voix très reconnaissable quand on veut faire partie d'un chœur professionnel. Il faut être un bon travailleur. Et donc ça fait aussi partie des qualités requises pour être chanteur.
Et puis, il y a les solistes dont vous faites partie.
Voilà, alors les solistes, c'est un autre travail. Il faut savoir, comme le mot l'indique, c'est-à-dire soliste, être seul, et donc être pleinement responsable de ce que l'on fait, et puis savoir que dans cette approche du métier, il ne faut jamais être malade, même quand on l'est, que ça demande beaucoup, beaucoup d'astreinte, effectivement, mais avec tellement de plaisir au bout.
Avez-vous le trac, Odile Descols ?
Évidemment que j'ai le trac. Et je crois que plus les années passent, plus je l'ai.
Oui ?
Oui. On ne s'habitue jamais.
Non ? Je voulais vous demander à quoi vous pensiez, qu'est-ce que vous ressentiez quand vous rentrez sur scène.
Ah bah, les cinq minutes avant, je vais être très franche, j'ai l'impression d'aller à l'échafaud.
À chaque fois ?
À chaque fois. Ça ne m'aura jamais quittée.
Et alors, il y a le bon moment après, c'est celui des applaudissements.
Non, le moment, c'est quand on chante.
Oui.
Le moment, c'est quand on chante, parce que il faut savoir sa partition plus que la savoir. Il faut l'avoir dépassée pour arriver à autre chose, à une communication avec le public que l'on ressent énormément. Il y a un échange qui est autre que la parole, qui est autre que la musique. On sent le public. Et donc, à partir de ce moment-là, on donne pleinement. Et ce moment de plaisir-là, le moment de plaisir, il est là. Les applaudissements, bien sûr, mais on est tellement dans l'émotion qu'on les reçoit, mais non, le plaisir, c'est de chanter.
C'est de chanter.
Oui, oui, de partager ça. Oui.
Et vous connaissez vos partitions par cœur ou
oui,
vous les lisez?
Oui, non, il faut les savoir par cœur pour les dépasser, pour ne plus avoir à penser au texte, aux notes.
Vous nous avez dit tout à l'heure que l'importance du public pouvait être différente finalement. Il y a une espèce d'échange.
Oui.
Ça veut dire qu'il n'y a pas deux concerts pareils.
Non. C'est une remise en question totale à chaque concert. C'est-à-dire que je peux avoir chanté pendant des années. Quand je rentre en scène ou dans une église, ou enfin, quand je vais me mettre à chanter, c'est comme si je n'avais rien fait. On recommence à zéro, puisqu'on peut très bien avoir fait de très bons concerts auparavant, et puis on travaille sans filet. Hein, donc, voilà.
Vous donnez des stages de chant en France, qu'est-ce qui se passe pendant ces stages-là ?
Alors j'organise effectivement des stages en France, là, cette année j'en organise un en Corse,
ah oui ?
En Corse en juillet, et puis entre Nîmes et Montpellier à la fin du mois d'août, et s'y inscrivent une vingtaine de personnes, entre 20 et 30 personnes. Cette année, le premier stage est consacré à une histoire de la musique à Vienne. Mmh. Donc les gens viennent y faire un stage choral avec des extraits d'œuvres de compositeurs qui ont vécu à Vienne. Donc je raconte l'histoire de la musique à Vienne. Là, on partira depuis Vivaldi, puisque Vivaldi est mort à Vienne, jusqu'à Mahler.
Que vous aimez bien.
Oui, j'aime bien Mahler, c'est vrai.
Vous l'avez chanté mezzo, plusieurs
oui,
fois.
Oui, une mezzo aime bien Mahler, oui.
Bon.
Surtout en vieillissant en plus,
oui.
Parce que la voix est encore plus ronde qu'avant. Donc ça... Et puis peut-être qu'aussi on a vieilli, il y a des choses qu'on a mieux comprises.
Pourquoi en Corse ?
Ben, écoutez, c'est un lieu magnifique, la Corse.
Oui. Vous avez des attaches particulières
avec la Corse ? Pas du tout,
non.
C'est par hasard que j'y suis allée. Et depuis, j'y vais très régulièrement, effectivement.
Vous écoutez Radio Grand Ciel. Nous vous parlons d'un concert qui sera donné le 28 juin à 21h à la cathédrale de Chartres. Pour en parler, vous l'avez entendu tout à l'heure, nous avons la chance d'avoir dans le studio Odile Descols. Et vous pouvez nous dire un mot de ce qu'on vient d'entendre là?
Alors, le Requiem a été écrit par Mozart en 1791. Il faut savoir qu'à cette époque-là, en 1791, Mozart arrivait enfin à être complètement reconnu, puisque en mai 1791, il devient le vice-maître de chapelle de la cathédrale Saint-Étienne à Vienne. Il faut savoir que Mozart était un dépensier, un joueur de casino, on va dire, et donc il était toujours en manque d'argent. Il était marié avec Constance, qui à cette époque-là avait eu beaucoup d'enfants en très peu d'années, et Mozart n'est pas malade à cette époque-là. Au contraire, on lui a commandé la flûte enchantée en avril, donc il se met à l'écriture. Et dans ses lettres, qu'on peut lire, bien sûr, puisque on les a répertoriées, bien sûr, eh bien on peut lire qu'il s'inquiète beaucoup pour Constance. Constance qui a eu beaucoup de grossesses en peu d'années et qui a des varices qui l'enquiquinent énormément. Donc il dit à Constance, bon écoute, pars donc prendre les eaux à Baden avec Süssmayer, son compagnon, son fidèle collaborateur, et puis bah, reviens, et puis on verra. Moi, je pars à Prague présenter la Clémence de Titus, son dernier opéra d'ailleurs, qu'il va écrire en moins de 15 jours. À Prague, eh bien, il est extrêmement bien reçu. Et puis arrive une commande, et là, Constance dit, oh là là, faut la prendre cette commande, parce que quand même, on est à court d'argent. Il s'agit d'une commande d'un comte qui s'appelle le comte Valsec. Le comte Valsec est un homme éminent qui est richissime et qui s'est constitué pour lui un orchestre qu'il a plaisir à diriger. Et c'est un orchestre à qui il montre des œuvres qui ne sont pas signées et à qui il fait deviner de qui est l'œuvre. Or, le comte Valsec, en février 1791, eh bien, vient de perdre sa femme. Donc il cherche quelqu'un qui pourrait lui écrire un requiem. Et tout naturellement, puisque Mozart est devenu le vice-maître de chapelle de la cathédrale Saint-Étienne, eh bien, il s'adresse à lui en lui disant « Voilà, j'aimerais un requiem, vous me l'écrivez, mais vous ne le signez pas, parce que je veux faire deviner ça à mes musiciens. » Et tout ça se passe devant notaire. Mozart reçoit la moitié de la somme de sa commande, et puis il part à Prague, il se dit « Bon, il faudrait peut-être que je m'y mette. » Il commence à s'y mettre. Et pour ce faire, comme il se faisait beaucoup à l'époque, il prend des lignes mélodiques chez ses collègues, en particulier chez le fils aîné de Jean-Sébastien Bach. D'ailleurs, là je ne peux pas vous le faire, mais le record d'arrêt du Requiem de Mozart est tout emprunt d'une fugue du fils aîné de Jean-Sébastien Bach. Il part avec ça, il commence à l'écrire. Il faut savoir aussi que si Mozart jouait beaucoup, il aimait aussi beaucoup les femmes. Et c'est comme ça qu'il avait attrapé la syphilis. Et que depuis quelques années, eh bien, pour essayer de se guérir de ce mal, il consommait de l'arsenic. Ah, et l'arsenic, c'est pas très bon. Effectivement. Et qu'effectivement, quand il rentre de Prague, il commence à être malade en novembre. Vers le 15 novembre, il va diriger son dernier concert et il tombe vraiment malade. Il meurt en décembre, au début de décembre. Et là, se passe quelque chose d'assez triste, c'est que Constance a déjà dépensé la moitié du contrat.
Mais le requiem n'est pas terminé.
Mais Süssmayer, qui était le fidèle collaborateur de Mozart, va chercher dans les papiers de Mozart et trouve ce qu'on appellerait maintenant des post-it. Des post-it donnant des indications. Donc, il se met à continuer à créer la chose, parce que Constance dit à Süssmayer, il n'est pas question que le comte de Valsec n'ait pas son requiem, parce que j'ai besoin d'argent. Donc, s'il vous plaît, on ne va pas dire que ce n'est pas Mozart qui l'a fini. On fait comme si c'était, et donc Süssmayer va continuer. La seule chose que l'on sait, c'est que Süssmayer va reprendre la première fugue pour terminer l'œuvre, ce que n'aurait pas choisi Mozart, parce que Mozart avait plutôt pensé à Amen fugué. Messus Meyer va terminer l'œuvre, va présenter ça à Valsec comme si c'était Mozart qui l'avait créé, et ils vont naturellement avoir l'argent. Ce que Valsec n'a jamais su, c'est que Constance l'a vendu une deuxième fois au roi de Prusse, Frédéric Guillaume II, pour avoir un petit peu plus de sous.
C'est assez indélicat.
Je terminerai là-dessus pour vous dire que Mozart avait eu plusieurs enfants, dont deux sont restés vivants. Un fils et un garçon, un fils et une fille, et que, curieusement, celui qui va s'occuper de l'éducation musicale de ce garçon, eh bien, c'est Salieri, qui était son concurrent direct. Voilà ce que je voulais vous raconter sur le Requiem de Mozart.
Oui, bien sûr, c'est une messe avant tout.
C'est une messe de Requiem, c'est-à-dire une messe pour les morts. Une messe pour les morts qui était écrite, comme la plupart des Requiem, en ré mineur, qui est la tonalité de la souffrance. Avec un passage en sol mineur qui est l'offertoire, qui est plus rapport à la passion en elle-même, mais c'est requiem aeternam, oui, tout à fait. Alors, ça, ce sont des pensées apocryphes, au très 19e siècle, disant que Mozart sentait sa mort. Non, il ne la sentait pas.
Il ne la sentait pas, rien dans ses écrits ne nous permet de...
Mozart était à la fois quelqu'un qui est un génie musical, hein, il écrivait rapidement, et puis qui avait été un petit enfant très virtuose, prodige. Il était à la fois truculent, ses lettres sont parfois très scatologiques. Il s'amusait peut-être beaucoup, il était insupportable parce que ça avait été un enfant gâté et que comme il était prodigieux, eh bien, on lui passait tout. Et pourtant, pétri d'une grande angoisse qu'il avait depuis tout le temps.
On ressent à certains moments cette angoisse-là dans la musique de Mozart ?
Non. Mozart disait qu'il fallait que les passions ne soient pas trop fortes et trop exprimées parce que ça dénaturait la musique. Par contre, il écrit très bien. Et si on fait, c'est un peu comme une bonne recette de cuisine, je dirais. C'est-à-dire que si on suit à la lettre ce qui est écrit, l'émotion vient. Ce qui est très important chez Mozart aussi, c'est le silence, les silences, l'utilisation des silences dans sa musique. C'est magistral. Si c'est respecté à la lettre, ça vous donne une profonde émotion.
Alors, est-ce que les chefs d'orchestre savent faire ce silence-là ?
Alors, ça dépend des chefs d'orchestre. Ça dépend du moment de leur vie aussi dans lequel ils vont le jouer. Parce que si vous êtes dans une période triste, effectivement, là, ils vont le ralentir. Et si vous êtes dans une période gaie de votre vie, bah, les tempi vont s'accélérer. Tout ça dépend de la personne et de la manière dont le chef le voit. Oui, tout à fait.
Thank you.
Odile Descols, est-ce que c'est la plus jolie musique jamais composée que le Requiem de Mozart?
C'est une écriture extrêmement aboutie, effectivement. Dire que c'est le plus beau morceau, en tant que chanteuse, je ne peux pas dire ça.
Il y en a d'autres que vous aimez tout autant.
Tout autant, pour diverses raisons d'ailleurs, oui.
Vous avez dit tout à l'heure, quand je vous ai demandé si ce serait votre Requiem, vous avez dit que ce sera surtout le Requiem du chef d'orchestre.
Oui, parce que moi je suis chef de chœur, je ne suis pas chef d'orchestre, je suis chanteuse avant tout, et chef de chœur, donc je m'occupe de diriger le chœur. Au moment du concert, eh bien, c'est le chef d'orchestre qui prend les choses en main, puisqu'il dirige son orchestre avec le chœur. Vous avez des chefs d'orchestre qui n'aiment pas trop diriger les chœurs en concert, d'autres qui aiment particulièrement la voix, donc voilà. Émilie Postel-Vinet est une jeune chef d'orchestre qui est à la base contrebassiste et qui est professeure de contrebasse. Elle a créé aussi un autre orchestre qui s'appelle le Grand Orchestre de Contrebasse, qui n'est constitué que de contrebasse.
Ciel.
Elle a donné d'ailleurs un concert à Musicora il y a 2 ans avec un orchestre qui était constitué de 100 contrebasses.
Quand même.
Et donc avec des petites contrebasses et des enfants qui jouaient de la contrebasse, voilà. Donc c'est sa passion. L'orchestre de la Bastille existe maintenant depuis 5 ans. Elle en est le chef d'orchestre et elle manie ça avec bien une main de fer dans un gant de velours.
Une baguette, je suppose.
Voilà.
À la baguette.
Non, vous allez voir, elle est très agréable à voir diriger. Et c'est un plaisir que de collaborer avec cet orchestre et cette jeune chef d'orchestre, oui.
Donc là, vous confiez avant la représentation,
oui,
vous confiez votre cœur au chef d'orchestre.
Tout à fait. La version du Requiem que vous venez d'entendre est une version de Carlo Maria Giulini, une version lente. Je l'ai montée avec différents chœurs, je crois, 20aine de fois dans ma carrière. Il est vrai que quand j'ai débuté, je le voyais avec une vision extrêmement tonique et... Et avec les années, je l'aime bien beaucoup plus lent.
Plus doux.
Plus doux et puis plus techniquement vocal, c'est-à-dire avec des longueurs de phrases plus longues qui demandent beaucoup de techniques de respiration aux choristes. Et j'aime leur faire découvrir ça. Et je le vois peut-être plus doux et plus apaisé, oui, plus introverti.
Alors, il y a peut-être une contrebasse dans l'orchestre, je ne sais pas, mais vous serez accompagné par
musiciens.
En tout cas.
Là, voilà, c'est un orchestre qui a la particularité d'avoir beaucoup de contrebasses. Donc, des basses profondes qui tiennent l'orchestre, oui.
Donc, une certaine personnalité.
Voilà.
C'est pour ça qu'il faut absolument aller écouter ce concert, même si vous avez l'impression de connaître cette œuvre-là, parce que la vérité du concert, c'est quelque chose à nul autre pareil, en fait.
Tout à fait. Et puis, en plus, avec cette particularité que... Le chef de chœur et la chef d'orchestre sont des femmes.
Oui.
Et que
c'est même plus que la parité, là, madame.
Voilà, et je trouve que c'est bien. C'est bien.
Ça change quelque chose.
À travailler avec une femme, ça change quelque chose. Les rapports, finalement, sont plus simples. Le pouvoir est une chose parfois difficile quand on est une femme dans la musique, ou même ailleurs, je pense. Mais là, le rapport avec Émilie Postel-Vinet se passe tout seul. On n'a pas besoin de commenter.
Ça s'est bien passé. Est-ce que vous chantez avec vos élèves, à votre chœur?
Non, je ne chante pas. Non. Je ne chante pas avec les choristes. Et les solistes ont été choisis par Émilie Postel-Vinet.
Et vous avez travaillé avec elle
Voilà, donc on a travaillé, en général, c'est ce qui se fait. On a une ou deux répétitions avec l'orchestre et puis le concert. Le chœur travaille, là ça fait 6 mois qu'on est sur le Requiem, donc je l'ai fait répéter tous les mercredis soirs. Et puis 1 ou 2 répétitions, et allez, le concert est là.
Le concert est là. En tout cas, il sera là à Chartres, le 28 juin à partir de 21h. On vous a dit tout à l'heure que l'entrée était gratuite, mais bon, ça serait bien quand même si vous pouviez...
C'est-à-dire que oui, l'entrée est gratuite, malgré tout. L'entrée est gratuite et comme on dit, la sortie peut-être payante, je ne sais pas. Non, il y aura certainement une corbeille afin de remercier la cathédrale de Chartres et de rembourser les frais de l'orchestre, bien entendu. Bien entendu.
Merci beaucoup, Odile Descols.
Merci à vous, Bernadette.
Merci à Simon qui a assuré la technique de cette émission. En ce qui me concerne, je vous dis à très très bientôt sur Radio Grand Ciel.